Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro exceptionnel de Chut, on écoute la télé, on va fêter comme il se doit les 20 ans de Caméra Café avec dans un instant Yvan Le Bolloc, Bruno Solo et Charles Bousquet qui vont venir se succéder pour nous parler de leurs souvenirs et des 20 ans qui vont être fêtés demain soir sur M6. Deux coups de cœur ciné cette semaine, le premier consacré à Divertimento. Le film sort mercredi dans les salles. Marie Castille, mention char, la réalisatrice, sera avec nous, avec ces deux héroïnes, Lina El Arabi et Oulaya Amamra, qui seront nos invités pour parler justement de l'histoire des sœurs Ziwani, les chefs d'orchestre. Deuxième coup de cœur ciné consacré également à Vaincre ou Mourir, la super production du Puy du Fou. Guillaume Allaire, le producteur, ainsi que Hugo Becker et Jonathan Demurger seront nos invités en fin d'émission. Et puis coup de cœur télé également consacré à l'histoire d'Annette Zellman. Philippe Leguet, le réalisateur, va être avec nous accompagné justement d'Ilona Bachelier et Vassili Schneider pour nous en parler. Et puis lycée Toulouse-Lautrec se termine ce soir sur TF1. À cette occasion, Valérie Carcenti va venir nous présenter ses deux derniers épisodes. Et puis Piste Noire également débarque ce soir sur France 2. On en parle avec Thibaut de Montalembert qui va être notre invité exceptionnel. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va encore pas s'ennuyer dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre spécial Caméra Café, les 20 ans. Oui, Jean-Claude Convenant et Vévert, is back. Ils sont de retour pour le meilleur et pour le rire.
Arbach. Ah oui, Arbach. À ne pas confondre avec Arbeit, qui veut dire travail en allemand, mais Arbach. S'ils sont plusieurs, c'est Ar.
Yvan Le Bolloc et Bruno Solo qui va nous rejoindre dans un instant. Quel bonheur de vous retrouver. Franchement, on est tellement content de vous revoir pour une soirée anniversaire qui s'annonce pleine de surprises, Yvan.
J'espère, oui, pleine de surprises. Déjà, le fait de retrouver 20 ans après les héros de Caméra Café, effectivement, Hervé Dumont, Jean-Claude Convenant, mais aussi tous les autres acteurs, Maëva, Alexandre Pell, et puis même des nouveaux, en la personne de Walidia. Bah ouais, j'espère que ça va être une succession de bonnes surprises.
Alors Jean-Claude va vivre un événement sans précédent dans l'histoire de la boîte, il va s'en retrouver chamboulé, ce qui va permettre justement à lui et Hervé de se remémorer les plus belles années, avec évidemment de nouveaux sketchs inédits et l'occasion pour vous de revivre de belles scénettes. C'est bien dit.
Oui. On avait commencé la série à l'époque, c'était le 5 ou le 4 septembre 2001. Et tout le monde sait que quelques jours plus tard, le monde allait basculer avec les attentats du World Trade Center. Et donc, 20 ans après, on s'est dit, M6 est dans une période d'anniversaire, de rétrospective sur tous les programmes qui ont marqué l'histoire de la chaîne. Donc, pourquoi pas proposer à M6 un Caméra Café géant.
Ils ont accepté tout de suite.
Oui, oui, ils sont sympas. Ils sont sympas et puis aussi ils savent un peu ce qu'ils nous doivent, je pense, parce que M6, voilà, c'est une chaîne généraliste. Hein, donc c'est une chaîne généraliste. Il y a des programmes, il y a le Loft et puis il y a eu aussi, il y a aussi Kaamelott, il y a eu aussi Caméra Café en fiction, en programme court. Il y a eu des choses qui ont été assez marquantes pour la chaîne. Donc c'était assez logique et cohérent de proposer cette idée à M6 qui a sauté dessus à pieds joints en disant mais quelle bonne idée vous avez eue là, mettez-vous au boulot.
Voilà. Il y a longtemps vous aviez envie de réendosser vos costumes tous les deux avec Bruno et en tant que vous en discutiez en tout cas.
Alors personnellement, Caméra Café c'est quelque chose qui a pas beaucoup compté dans ma vie et professionnelle et personnelle. Et professionnellement, ça m'a évidemment beaucoup apporté. C'est tellement rare d'avoir une idée dans sa petite tête un peu tourmentée et puis de la voir se réaliser. Et puis de l'avoir tourné, monté, projeté à la télévision et qui semble vraiment plaire aux gens. Ouais, pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très important de marquer le coup et de proposer cet anniversaire. Ouais.
Alors dans cette soirée anniversaire, il y aura plein de guests qui vont être présents. Évidemment, tous les anciens sont de retour aussi. Il y en a qui ont été difficiles à convaincre ou tout le monde y est retourné avec grand plaisir.
Non. Là, il y a eu une unanimité dans le camp français. Il y avait même des larmes, hein, le premier jour sur le tournage, quand on a dit moteur, ou quand ils ont réenfilé leur costume et qu'ils se sont retrouvés devant cette drôle de mise en scène. Hein, parce que Caméra Café, c'est un dogme, un peu comme Lars von Trier. On n'avait jamais vu une fiction se réaliser sous l'œil inquisiteur d'une caméra de surveillance qui avait été planquée dans une machine à café.
Et là, on en sort quand même sur cette soirée. On s'aperçoit que l'entreprise est grande, hein, finalement, oui. Ça ne se cantonne pas à la machine à café. Hein.
Oui, bien sûr. Oui. Là, on est passé de l'autre côté du quatrième mur. Ouais, c'est ça.
Vous avez reconstitué les décors d'antan, du coup, où ils avaient été gardés?
Non, mais les décors de la machine à café, il faut quand même avoir les pieds sur terre et reconnaître qu'il s'agit de trois planches en bois, hein, et un faux ascenseur dans le fond. Hein, donc, c'est une bonne méthode pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de se lancer dans la comédie. Donc, après, il s'agit évidemment d'articuler les déplacements, de raconter des histoires, etc. Mais... Non, les décors n'avaient pas été gardés, pas plus que les costumes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement de mauvais goût, on voyait pas à qui ça pourrait servir. Hein.
Et ben la preuve, 20 ans après, ils sont de retour pour notre plus grand plaisir. On va écouter un extrait de Caméra Café, c'est 20 ans, et puis on va revenir avec Bruno Solo juste après qui va nous rejoindre. Parce que évidemment, Jean-Claude sans Hervé, Hervé sans Jean-Claude, ça serait pas Caméra Café. On a le bonheur de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Alors merci Yvan, en tout cas d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec Bruno Solo. À très vite.
Merci à vous.
Bah, dis-moi, t'as l'air en forme toi ce matin, je me trompe?
Oh bah, faudrait être difficile, je viens de changer les plaquettes de frein de la Xantia.
À quoi ça tient,
hein? Non, puis je coche toutes les cases en ce moment, Bébert. Hein. Bon, côté pro, bon bah les ventes serrent à la gueule. Hein. Puis alors, côté cœur, depuis que j'ai touché mon nouvel acteur Chav, Retiens de minuit, c'est la fête de l'abricot. Je ramasse, mais t'as pas idée.
Moi, j'en suis sûr.
Sans compter que... ce midi, œuf maillot à la cantoche.
Et c'est une belle période, hein, c'est sûr. Hein.
Bah t'as pas l'air malheureux non plus.
Je te le fais pas dire. Bon, ça reste entre nous, hein, mais voilà, le syndicat m'a demandé de faire une... petite intervention au congrès annuel de Bagnon-le-Vaseux. Ah. Puis l'attention, c'est le grand bain. Hein. Il y aura la presse écrite, la radio et peut-être TV Velu.
De retour avec Bruno Solo. Chose première, chose du Caméra Café des 20 ans. Quel bonheur de vous retrouver. On le disait avec Yvan il y a un instant. Je ne sais pas si le bonheur a été aussi total pour vous que pour nous à vous revoir, en tout cas pour une soirée événement. Mais en tout cas, quel pied.
Oui, bah oui, c'était assez évident qu'on aimerait ce moment, à partir du moment où il vivrait. Quand on s'est retrouvés avec tous les camarades, les filles et les garçons qui font quand même partie de notre vie, quand même. Et puis on le sent quand on croise des gens, à quel point cette série, pour ceux qui se manifestent, hein, ceux qui n'ont pas aimé ont la délicatesse de pas se manifester, mais ceux qui ont aimé, lorsqu'ils viennent nous voir, ils nous disent « Ah, quand est-ce que vous revenez ?» On sentait que c'était l'occasion unique, les 20 ans, c'est un âge hautement symbolique, donc un anniversaire hautement symbolique. Pour ceux qui l'ont pas encore eu, vous le verrez, pour ceux qui l'ont eu, on s'en souvient de nos 20 ans. Donc voilà, l'idée de se retrouver et de raconter comment ces Velois et ces Veloises avaient traversé ces 15 dernières années avec tous les événements marquants, dramatiques, et aussi tragique, mais aussi un peu plus joyeux ces événements, on s'était dit il faut montrer aux gens comment la Veule a traversé ces 15 dernières années. C'était une sorte de logique pour les 20 ans, quoi. C'était le seul prisme par lequel on pouvait faire, plutôt que de faire un long sketch en dehors d'une actualité ou hors contexte, il fallait que ça soit traité comme ça et pas autrement.
Alors, tout le monde est revenu, évidemment, dans ce retour. On le disait avec Yvan, on y suit évidemment Jean-Claude et Hervé dans leurs aventures. Jean-Claude qui vit un moment pas très sympathique dans cette entreprise. Cet événement qui va eh bien vous faire remémorer toutes les grandes années que vous avez vécues pendant 15 ans. En fait, c'est tout simplement ce qu'on a raté pendant 15 ans où il n'y a pas eu Caméra Café. C'est ça qu'on revit finalement.
Charlie Hebdo, à la fin de Charlie Hebdo, il y avait un truc, les couvertures à laquelle vous avez échappé cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a une réunion de rédaction à Charlie. Il y avait une rédaction, toujours maintenant, et puis ils choisissaient une couverture. Mais ils ne voulaient pas que le public ou les lecteurs passent à côté des autres choix qu'ils avaient pu faire. Ben nous, c'est ça. Tout ce à quoi Caméra Café avait échappé, ben on va vous en parler. Parce que si Caméra Café avait continué, évidemment qu'on aurait traité des attentats. Évidemment qu'on aurait traité des gilets jaunes, de Balance ton porc, de la Coupe du Monde, pour parler d'événements plus joyeux, de la mort de Johnny, pour parler d'événements marquants et tout. Évidemment qu'on l'aurait fait. Mais comme Caméra Café s'est arrêté, on l'a pas. On s'est dit, c'est dommage. Donc revenons. Une journée continue où Jean-Claude effectivement se fait virer, pour des raisons qu'on va comprendre au fur et à mesure, entrecoupées de souvenirs à travers d'une photo qu'on retrouve, d'une discussion, d'un objet, et on se dit souviens-toi, et on remonte comme ça le temps jusqu'à aujourd'hui, et j'en dis pas plus parce qu'il faut pas spoiler, mais évidemment on remonte jusqu'à 2020.
Et évidemment, Weber va tout faire pour sauver ses fesses, lui.
Ah ben Weber, de toute façon, c'est son principe de vie, genre se sauver après lui le déluge, quoi. Il se sauve et puis après, éventuellement, s'il peut tendre la main à quelqu'un qui pourrait l'aider lors de son sauvetage, il va faire monter dans son canot de sauvetage celui susceptible de le réparer. Pas évidemment quelqu'un qui va l'encombrer. Ça, c'est la philosophie fondamentale d'Hervé. C'est moi et les autres après. Et en même temps, voilà, c'est des monstres qu'on aime adorer. Jean-Claude, c'est un homme qui est traversé par la vie sans la comprendre. Moi, j'essaye de la comprendre, je fais semblant de la comprendre, mais elle me traverse aussi. C'est pour ça que ces deux personnages sont un peu pathétiques et qu'en même temps on aime les aimer, parce qu'on aime aimer les ratés, qu'on aime aimer les aussi quelque part un peu les monstres. Regardez De Funès. De Funès était un type mesquin, étroit d'esprit, enfin le personnage qu'il incarnait, raciste à l'occasion, lâche, veule. Et pourtant, moi encore, mes enfants, enfin ma fille, quand elle était petite et encore maintenant, quand elle voit De Funès, elle pisse de rire. Elle éclate de rire parce qu'en fait, on est très attiré par ce miroir déformant de ce que nous sommes et on est toujours en train de se dire, je ne suis pas comme ça, mais qu'est-ce que ça me fait rire de voir la cupidité en mouvement. Et ben voilà, Jean-Claude et Hervé, ce sont deux monstres sur lesquels on aime se moquer, effectivement. Et à la fin, c'est pour ça que, sans trop dévoiler, il y a une fin un peu pathétique parce qu'ils ne méritent pas d'autre chose. Dans notre immoralité, on a une certaine morale. Il ne s'agit pas de sauver nos personnages, juste de les montrer tels qu'ils sont. En revanche, autour de nous, tous les personnages qui gravitent autour de nous s'en sortent plutôt mieux parce qu'ils ont eu l'intelligence peut-être d'écouter l'époque, alors que nous on ne l'écoute pas. J'essaye de l'accompagner mais j'y comprends rien et lui par contre elle la transperce, quoi, Jean-Claude.
Alors moi ce qui m'a frappé, c'est que ça fait 15 ans que vous n'aviez pas endossé vos rôles et on a l'impression que vous les avez jamais quittés. Ça vous a fait la même chose quand vous êtes retournés sur le plateau tous?
C'est-à-dire que moi j'ai fait un métier qui s'appelle comédien, donc c'est le principe, hein, quand même. Mais non, mais oui, bien entendu, dès lors qu'on a eu remis le costume.
T'as retrouvé l'éthique du langage, t'as tout retrouvé, quoi.
Oui, parce que dès lors que tu remets le costume, c'est 50% du travail qui est fait. Je dis pas que ça a été simple, hein, le premier jour, il a fallu retrouver cet équilibre entre le fait de regarder la caméra tout en s'adressant à ton partenaire sans trop le regarder parce qu'autrement le public ne te voit plus. C'est du théâtre, Caméra Café. Donc cette idée de théâtre, effectivement, fait qu'on doit privilégier le regard vers le spectateur. Donc de temps en temps, ça a été techniquement un peu compliqué pour nous tous, mais au bout de oui, il y a des choses qui sont revenues. Vraiment, c'est l'expression qu'on connaît tous de nos grands-mères, c'est comme le vélo, ça finit par revenir. Et effectivement, ce tempo-là a fini par revenir. Maintenant, bon, voilà, c'est quand même notre boulot, quoi. Et puis je savais que tous les comédiens de Caméra Café sont des comédiens qui continuent à bosser régulièrement, Armel, et voilà. Donc ils n'ont pas non plus perdu complètement leur technique. Alors au début tu fais appel à ta technique, et puis après il y a du lâcher prise. Le lâcher prise a été plus compliqué à retrouver, mais la technique on l'a pas totalement perdu, quoi.
Alors est-ce que ça a donné des envies? Des envies particulières de continuer l'aventure ou de la reprendre par la suite pour peut-être des films événementiels de temps en temps, régulièrement?
Bah, l'envie, cette première envie, déjà, on l'a assouvie. Voilà. C'est... Après, la suite, on va pas se mentir, on est très tributaire, de l'audience. Et puis, si ça cartonne, M6 nous dira, c'est une bonne idée, peut-être. Si ça marche pas, on n'en parle même plus. Donc, ce sera réglé. Donc, ne présageons de rien, pas de l'avenir. Moi, dans mon esprit, c'est le baroud d'honneur. Maintenant, on verra. Voilà, nous étions très excités à l'idée de faire revivre ça pour les 20 ans. Après, je voudrais pas que ça devienne un prétexte. Et faire le match de trop, vous savez, comme les boxeurs ou certains sportifs qui font le match de trop. Donc, on avait su s'arrêter au moment où on était au sommet, vraiment, où Camara Café cartonnait. C'est là qu'on avait dit on arrête, parce que ça ne pouvait que décliner, parce que c'est le cycle de la vie et le cycle des séries. Et là, donc, si ça marche, c'est peut-être l'occasion encore plus d'arrêter que si ça ne marche pas. Donc on verra. Mais moi je me le projette pas dans ces choses-là parce que
une c'est jamais.
Oui, n'insultons pas l'avenir et puis voilà, les vérités d'aujourd'hui sont les incertitudes de demain, voilà.
Exactement. En tout cas, moi je vous promets une bonne soirée, une soirée non seulement nostalgie et 100% inédite de Camara Café. Vous allez rire évidemment cette semaine sur M6 pour ce grand retour pour les 20 ans de Camara Café, l'occasion de passer une bonne soirée. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Merci encore à Yvan. La bande originale, c'est Ma Guitare S'Appelle Reviens, le groupe de Yvan. On va se l'écouter pour terminer en beauté évidemment cette spéciale. Et Bruno, on se dit à très vite.
À très vite, à très bientôt, merci.
Tu me le promets, tu vas parler à ta mère. Tu vas lui annoncer notre liaison cette fois-ci.
Absolument. Et sauf catastrophe, on pourra emménager ensemble dès que je reviens.
C'est merveilleux, Sylvain.
Eh les gars, vous devinerez jamais. J'emmène ma mère à New York pour sa fête. J'ai pris les billets, décollage le 11 septembre. À mon avis, on va en prendre plein la vue.
Ouais. Eh ben, c'est si tu dégages pas d'ici que tu vas en prendre plein la vue. Allez hop, de l'air les moineaux.
Ben, t'as tout gagné, JC. Je te ramènerai pas de mug.
Et toc.
Mais qu'est-ce que tu peux être cruel parfois?
Et on continue de fêter ensemble les 20 ans de Camara Café. C'est un bel événement. Charlie Bousquet nous a rejoint, alias Nancy.
Nancy Langer.
L'inoubliable Nancy. T'as dit oui tout de suite pour y retourner dans cette aventure incroyable qui t'a occupé pendant 5 bonnes années, je crois.
Ah oui, au moins. Entre les sketchs, les films et tout ça, oui, ça nous a occupé quelques années. Et bien évidemment, mais tous, c'est-à-dire que la simple idée de refaire un film ensemble, ça planait dans l'air depuis quelques temps. Mais le jour où on a reçu le mail en disant « Est-ce que vous êtes partant ?», je crois que je peux affirmer qu'on a tous dit oui sans même lire, en fait.
On va retrouver une Nancy méconnaissable. On va pas tout dire, tout dévoiler, bien sûr. Mais voilà, on a planté le décor avec Yvan et Bruno, puisqu'on va passer en fait en revue 15 années sans Camara Café. Mais que s'est-il passé devant la machine à café pendant ces 15 années qu'on n'aurait pas vu? Eh bien voilà, c'est ce qu'on va découvrir. Et on va découvrir Nancy un peu métamorphosée. Ça a dû bien te faire rire quand même.
Bah, disons qu'en 20 ans, il peut se passer des choses. Et la pauvre Nancy, voilà, il lui est arrivé quelque chose dont je ne dévoilerai pas parce que c'est un peu la surprise, mais...
Elle a pris cher, on va dire.
Elle a pris un peu cher, la vie n'a pas été tendre avec elle, mais elle rebondit quand même. Donc, en 20 ans, on se transforme dans le bien ou dans le moins bien. Bon, bah, Nancy, elle a glissé un peu.
Elle a glissé, c'est bien dit ça. Et il y a des rôles comme ça qui marquent une vie, qui marquent une carrière.
Moi, oui, je pense que Camara Café, voilà, à vie, on me parlera de Nancy. Et même quand je serai une petite vieille et qu'on reparlera de ma carrière, on me dira Nancy de Camara Café. Et tant mieux, moi, j'adore.
Mais c'est vrai que c'était une belle aventure. Quels sont tes plus beaux souvenirs, justement, toi, sur Camara Café? Il y a dû y avoir des fous rires, quand même, des fois incontrôlés.
Ah bah, des fous rires, ça, forcément, on en a eu beaucoup. Après, le meilleur fou rire, je serais incapable de le dire, mais je me souviens, alors c'est pas à tournage, mais mon meilleur moment, c'est, on était invités dans une station de ski, les Arcs. On était tous ensemble et on nous a emmenés faire de la luge de nuit en lampe frontale et imaginer toute cette équipe descendre à fond la caisse dans le noir avec du Genipi. On s'est fendu la poire et depuis je rêve que d'une chose, c'est de revivre cet événement quoi, qui est devenu interdit. Et voilà, donc ça c'était mon plus grand moment de fou rire avec
le séminaire aussi. Ah, yes. Qui a été le tournage du film de Camara Café, le séminaire pour le cinéma, qui vous a sorti complètement des studios là aussi pour aller au soleil.
Exactement.
C'est ouais. Une belle aventure ça aussi. Écoute, non, en tout cas, on va pas bouder notre plaisir de retrouver Camara Café pour fêter ses 20 ans avec cette grande soirée événement que M6 nous propose. Imaginons, énorme succès, M6 vous appelle tous et vous dit voilà, tiens, on pourrait faire 2-3 soirées événements comme ça par an. Est-ce que toi t'y retournes?
Mais bien sûr, bien sûr. Secrètement, on aurait
espéré.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je sais pas. Donc là, ce serait vraiment le génie des auteurs s'ils nous trouvaient encore autre chose à faire, parce que on a l'impression que la boucle est bouclée, mais il y a toujours des possibilités. Les auteurs sont pleins de ressources.
En attendant, un si grand soleil aussi. Et évidemment, dans l'ex-femme de Manu, Léonie, on te retrouve tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2. Ça aussi, c'est une belle aventure. Puis on a l'impression que quand il y a soleil dans le titre, toi, ça te va bien. Hein.
Ah ben moi, voilà, c'est ça. C'est que s'il y a soleil, hey, il y a Charlie.
Bon, en tout cas, une belle aventure qui continue pour toi aussi, dans un si grand soleil.
Eh ben oui, bien sûr, bien sûr. Là, malheureusement, mon personnage a perdu sa fille. Enfin, elle est pas morte, hein, mais elle est partie faire ses études très loin. Donc, il va falloir rebondir. J'attends que les auteurs m'inventent une vie autre que ma vie de maman. Et tant mieux, ça va aussi ouvrir le champ des possibles. Et peut-être qu'on va découvrir une Laetitia.
C'est une femme d'affaires, Laetitia, va rebondir.
C'est la banquière. Et puis elle a une copine, Alix, qui est un petit peu... je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'attends de lire.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Shirley, pour terminer cette spéciale 20 ans de Caméra Café. C'était un grand plaisir pour nous en tout cas de pouvoir évoquer cette série qui nous a bercé aussi, qui nous a tant fait rire, je dois l'avouer aussi, je le confesse. Merci beaucoup, Shirley, à très vite.
Merci à vous, à très vite.
Et on se quitte avec un petit extrait, on va pas bouder notre plaisir.
Bah, dis-moi, t'as l'air en forme toi ce matin, je me trompe?
Oh, bah faudrait être difficile, je viens de changer les plaquettes de frein de la Xantia.
À quoi ça tient,
hein? Non, puis je coche toutes les cases en ce moment, Bébert. Hein. Bon, côté pro. Bon, bah, les ventes serrent à la gueule. Hein. Puis alors, côté cœur, depuis que j'ai touché mon nouvel after chav, retiens minuit. C'est la fête de l'abricot. Je ramasse, mais t'as pas idée.
Moi, j'en suis sûr.
Sans compter que. Ah, Speedy, œuf maillot à la cantoche.
Et c'est une belle période, hein, c'est sûr. Hein.
Bah, t'as pas l'air malheureux non plus.
Je te le fais pas dire. Bon, ça reste entre nous, hein, mais voilà, le syndicat m'a demandé de faire une petite intervention au congrès annuel de Bagnon-le-Vaseux. Et puis l'attention, c'est le grand bain. Hein. Il y aura la presse écrite, la radio et peut-être TV Veul.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Ce soir, nous rêvons.
On veut faire le bien.
On ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire.
Ça n'a l'air de rien.
Mais regardez la misère.
Pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non.
Il suffit de pas grand chose au fond pour
qu'un puissant fasse des millions.
Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution?
Pourvu qu'on s'aime.
Et qu'on les aime.
Pour que les rêves deviennent révolution.
Qu'on l'apprenne, qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution. Et dire sans trêve, sur toutes les lèvres,
on pourra lire notre révolution.
Voix, c'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions.
Avec la force du nombre, on fait de rien.
Puissant, puis des sillons.
Pour tracer sur notre route une révolution. Pour que qu'on s'aime et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on l'apprenne.
Révolution.
Oh, 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 oh.
on s'aime et qu'on le sème,
que les rêves deviennent révolution.
Faut qu'on l'apprenne,
qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution.
Le dire sans trêve sur toutes les lèvres
pour élire notre révolution.
Résolution.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, dernière semaine de diffusion avant, évidemment, ce grand final que vous allez découvrir cette semaine sur TF1 Toulouse-Lautrec. La série événement, on en parle. Chaque semaine, on soutient cette série avec Valérie Carsanti, qui est notre invitée aujourd'hui pour en parler, qui incarne Madame Lesplique. Bonjour Valérie.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. On en parlait avec Fanny, avec Chine, avec Stéphane les semaines passées. C'est une série qui les a bouleversés, que ça soit d'un niveau humain, de rencontres aussi. C'est une série qui a vraiment été différente des autres pour eux à tourner. Est-ce que ça a été ton cas aussi, Valérie ?
Ah oui, oui. Et tout le monde a été emporté dans une sorte de torrent de tendresse, d'humour, d'émotions très fortes. C'est dû évidemment au projet en lui-même, à l'ADN du projet, l'écriture de Fanny, qui est exceptionnelle, de par sa sincérité, son engagement, ce dont elle avait envie de témoigner. Et puis aussi les gens qu'elle a réunis, elle, Stéphanie, qui a rejoint la série pour la réalisation. Et ce qu'on a vécu, effectivement, a été très fort. C'était un échange très puissant, très fort.
Cette rencontre avec tous ces jeunes gens, ces jeunes comédiens, pour ceux qui n'ont pas suivi Toulouse-Lautrec dans les quatre premiers épisodes, on y suit le parcours notamment de Chine, qui est Victoire dans la série, qui fait évidemment la connaissance, qui est contrainte et forcée d'intégrer ce lycée, qui fait la connaissance de Marie-Antoinette. Ce lycée a la particularité d'intégrer des jeunes gens en situation de handicap et des personnes valides, qui sont référents un peu chacun à leur manière, et c'est des rencontres qui bouleversent évidemment toute une existence, et avec le personnel encadrant et enseignant évidemment aussi, qu'on sent très très concerné en tout cas dans cette série, ça c'est chouette.
Oui, non, mais pour avoir rencontré le directeur et co-directeur du lycée Toulouse-Lautrec, puisqu'il existe à Vaucresson, sont des gens non seulement concernés, mais d'un engagement absolu, quoi. Ils vivent des choses avec ces jeunes et ils ont à traverser avec eux des choses merveilleuses et des épreuves très difficiles. Il faut être très solide. Et en même temps, bah, comme le montre la série, la vie continue. Ce sont des jeunes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes envies que les adolescents valides. Et c'est ça qui bouleverse. C'est-à-dire que la série nous découvre un monde quand on n'a pas eu la chance d'avoir une personne handicapée dans sa famille ou dans ses relations, dévoile un monde à la fois miroir avec le nôtre, c'est-à-dire sur l'essentiel exactement la même chose, et en même temps une connaissance effectivement de leur quotidien, de leur courage, de leurs efforts, de leur vitalité et de leur humour absolument incroyable, bah, pour vivre leur vie, quoi.
Qui est Madame Lesplique ? Comment tu la vois ?
Madame Lesplique, bah, elle est très bien écrite par Fanny. Hein. J'avais un guide dans l'écriture qui était très sûr. C'est une femme qui se cache derrière sa fonction. Voilà. C'est-à-dire que elle ne fait absolument pas rentrer en ligne de compte ni son affect, ni ses sentiments, ni sa vie privée. Donc, c'est une fonction, c'est une co-directrice. Elle est prête à assumer toute la problématique de ce lycée, toute la problématique et les épreuves que vont traverser certains de ses élèves. Et elle ne veut pas être bouleversée ou fragilisée par l'émotion. Donc,
c'est une carapace, on
elle
sent.
Une carapace. Elle a comme une armure. Elle travaille avec son armure. Et comme elle le dit très vite dès le premier épisode, je crois, elle traite l'avantage que ça a, c'est qu'elle traite les valides et non valides exactement de la même manière. Tout le monde est sur le même plan d'égalité. Après, évidemment, bah, c'est une personne humaine avec sa vie qu'on ne connaît pas, mais on va découvrir qu'en fait, c'est pas seulement au sein de ce lycée qu'elle se protège, c'est pour d'autres raisons également. Donc on la découvre, et notamment, elle va les accompagner. Là, elle va faire un voyage avec eux dans le cinquième épisode. Elle va accompagner tous ces jeunes au Maroc, et à l'occasion de ce voyage, comme souvent quand on part en voyage, enfin, c'est des deux côtés en fait. Les jeunes se découvrent encore autrement et les accompagnants, professeurs aussi vivent des choses très fortes. Quand on part loin de chez soi comme ça, on est plus proche finalement de soi. Et donc ça va être un voyage où on va découvrir Madame Lesplique autrement.
Dans ces deux derniers épisodes, justement, ça va être un peu le voyage de classe, là.
Oui, c'est ça. C'est malgré les problèmes que rencontre l'école, Monsieur Feuillade se bat pour... Enfin, le directeur Feuillade, Stéphane de Groot, se bat pour qu'il y ait quand même ce voyage de fin d'année. Et il va être bouleversant pour tout le monde.
Je sens qu'on va encore passer un bon moment. Il y a de la comédie, il y a beaucoup de moments d'émotion. Et c'est à la fois très lumineux comme série. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on regarde. Je pense que les auditeurs et spectateurs qui ont vu déjà les quatre premiers, voilà, vont être conquis, j'en suis sûr. Et moi, je vous invite vraiment, voilà, à regarder la suite et le final de cette semaine. Vous allez passer, j'en suis sûr, un très bon moment.
Le final est absolument extraordinaire. Extraordinaire.
Puis au Maroc, sympa, le tournage, ça s'est bien passé là-bas?
Oui, très bien, on avait une super équipe au Maroc. On a eu la chance qu'il ne fasse pas, on avait très peur de crever de chaud, on y était au mois d'août, mais pas du tout. Il faisait bon, puis c'était magique, on a tourné dans les dunes, dans le désert, enfin, c'était très beau.
C'est génial ça. Les projets, Valérie, pour terminer, on est toujours scène de ménage évidemment sur M6, et puis il y a du cinéma, du théâtre, de la télé qui arrive.
J'ai un film qui va sortir, j'ai tourné avec Anne-Marie Vin et Guillaume de Tonquédec dans Toto, où je fais une méchante, une vraie méchante. Je me suis régalée, très très bien écrit, très drôle. Et puis sinon, non, j'ai des projets de théâtre en fait que je vais commencer à répéter. Et c'est deux créations pour l'automne 2023.
On aura le temps d'en reparler ensemble. T'es la bienvenue, tu le sais quand tu veux dans l'émission. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. Toulouse-Lautrec, le final c'est cette semaine sur TF1. Merci beaucoup et à très vite.
Merci à vous, à bientôt.
Tu sais ce que tu fais à Toulouse-Lautrec? Tu es ici parce qu'on te fait la chance d'intégrer cet établissement.
C'est juste l'enfer, quoi. C'est quoi cette histoire de référent?
Bah, vous allez être le référent d'un élève handicapé de votre classe. Vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner.
Inédit, lycée Toulouse-Lautrec, votre nouvelle série, prochainement sur TF1.
Vous savez comment on m'appelle ici?
Pas du tout.
Le frigo.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Piste Noire qui débarque ce soir sur France 2. C'est la série événement de ce mois de janvier. Après Vortex, eh bien, nous allons partir direction les montagnes avec cette nouvelle série. Et Thibaut de Montalembert qui est en ligne avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Un habitué de l'émission, on est très heureux de vous avoir à nouveau Thibaut pour parler du Major Servoz, évidemment, que vous incarnez dans cette nouvelle série. On va partir direction les montagnes, alors c'est une vraie série hivernale, on peut le dire, avec cette station fictive des Cléris où il se passe plein de choses, dites-moi.
Oui, alors il se passe plein de choses, et alors le personnage, effectivement, il y a un personnage qui n'est pas... Enfin, qui est omniprésent, qui est la montagne, parce que c'est vraiment parti. C'est pas une série qui aurait pu se tourner ailleurs, je veux dire. C'est lié à cet endroit.
Ah ben ça c'est clair, oui. Et puis là c'est un rôle, on n'a pas forcément l'habitude dans ce genre de rôle, avec un look totalement remanié par rapport à 10% ou par rapport effectivement au film Miss. On est dans un rôle vraiment sérieux de gendarme à la montagne, et c'est chouette de vous voir aussi dans un rôle tellement différent là.
Oui, alors c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce tournage, parce qu'on a affaire à un scénario qui est assez classique, qu'on connaît relativement, c'est pas une totalement surprenant, mais il y a eu cette rencontre que j'ai faite avec le réalisateur Fred Grivois, qui n'est pas français, qui est canadien et qui a appris son métier au Canada et aux États-Unis, et ça se sent, parce que il y a une façon de filmer, il y a un regard, il y a des choix de cadre, des choix de lumière qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, dans le service public. Et quand on s'est rencontrés, tout de suite, il m'a dit, voilà, moi, j'ai envie d'aller dans cette direction. Et je lui ai dit, écoute, ça me va très bien. Et moi, j'ai envie, par rapport au personnage, d'aller dans cette direction. Et il me dit, c'est formidable, c'est ce que je voulais. Donc, on s'est mis d'accord très, très vite. Parce que c'est vrai que, j'avais déjà fait un gendarme, d'ailleurs, au même endroit, tourné à Morzine aussi. On avait fait un meurtre en Haute-Savoie 3 ans auparavant.
Oui.
Où je faisais gendarme, mais très différent, et je voulais vraiment faire une composition, aller dans une direction où je n'avais pas l'habitude d'aller et où on n'avait pas l'habitude de me voir, en créant un look, un physique vraiment différent, une façon de marcher, une façon de parler, une façon de se mouvoir, différente de ce qu'on avait l'habitude de me faire, et parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire d'explorer des zones que je ne connais pas.
Eh bien oui. Alors, on va planter un peu le décor pour que les gens qui vont prendre dès le début ce soir, pour raconter un petit peu le tout début de l'histoire, on va y suivre la fête d'un grand champion qui vient de gagner une énième victoire, champion de ski évidemment dans la station des Cléris, et au moment de cette fête, on entend une détonation et on aperçoit en bas dans la vallée une caravane qui brûle. Il s'agit d'un camp de saisonniers, et évidemment ça va mettre le feu aux poudres et révéler tout plein de secrets Inaoué dans cette station, et notamment ceux de Madame le maire qu'elle essaye évidemment de cacher, de préserver, puisqu'il y a tout un complexe qui devrait se monter au Cléris, un grand projet immobilier. Et Évidemment, pour compliquer le tout, on va voir le retour d'Émilie Carras, une jeune fille bien de la région qui avait quitté sa région avec aux prises, évidemment, avec sa famille, qu'elle ne côtoie plus depuis maintenant des années. Et vous allez vous retrouver, Thibaut, justement, sous les ordres de cette Émilie Carras, où la relation n'a pas été évidente au tout début entre vous deux.
Non, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on forme un couple qui est très, très différent. Elle est beaucoup plus jeune que moi, elle pourrait être ma fille, et elle est mon supérieur. Donc voilà, et moi je suis de la vieille école, je suis un type qui est revenu un peu de tout, c'est une espèce de flic un peu à la Wallander comme ça, qui est un type qui vit seul, qui est un ancien alcoolique, qui a visiblement, bon, il a été, c'est un gars du pays parce que le cerveau c'est vraiment un nom de savoyard, mais il a passé une grande partie de sa vie apparemment en Bretagne, où on imagine qu'il a dû être marié, il a perdu un fils dans un accident de voiture, voilà. Et c'est une espèce de vieil ours comme ça qui vit tout seul dans sa baraque, qu'il retape, et là il se retrouve tout d'un coup avec quelqu'un qui va un peu lui secouer les puces et l'obliger un peu à sortir de sa zone de confort encore une fois. Et au début c'est tendu, et puis assez vite il y a une certaine tendresse et respect et amitié qui se noue
entre les deux. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est cette sensibilité que vous avez mis dans ce personnage, Thibaut.
Oui, c'est ce que j'avais envie. Je voulais pas en faire le gendarme type qu'on a l'habitude de voir partout et tout le temps. Je voulais en faire d'abord et avant tout un être humain. C'est-à-dire que c'est la première fois que je joue un gendarme en uniforme, en tout cas. Et parce que ce qui n'est pas rien, parce que une fois qu'on est planté dans l'uniforme, on est enfermé dans une coquille. J'avais l'avantage que ça se passe à la montagne. Du coup, je pouvais mettre des couches et des couches. Il a l'air par moments espèce de bibindum, un peu vieux nounours. Oui, c'est ça. Ouais.
Quelle scène vous a le plus marqué?
Je sais pas s'il y a une scène qui m'a le plus marqué. Je sais qu'il y avait une scène qui était pas facile à faire pour moi, qui est la scène où il reboit après avoir passé des années d'abstinence, puisqu'il est aux alcooliques anonymes. Tout d'un coup, il craque et il va picoler. Et c'était une scène qui était pas évidente à faire pour moi. Voilà.
Eh ben oui, j'imagine. Mais quel souvenir vous garderez de ce tournage? À part les paysages évidemment somptueux dans lesquels vous avez pu tourner. On dit souvent qu'un tournage à la mer, c'est une chance, mais un tournage à la montagne aussi, parce qu'on prend un grand bol d'air frais. Vous avez tourné l'hiver dernier, hein?
Oui, absolument. C'est du même ordre, effectivement, que de tourner à la mer. C'est même presque plus, je dirais que la montagne, et surtout quand on y tourne à cette période-là, c'est-à-dire que nous, on est arrivés en automne, tout était doré, il y avait encore de l'herbe verte, etc. Il faisait beau, il faisait assez doux. Et en une semaine, tout est devenu blanc. Ça, c'est magique. C'est-à-dire, et puis blanc et très blanc, parce qu'il a beaucoup neigé. Donc, c'est assez magique. Et tout d'un coup, on a l'impression d'être pas coupé du monde, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que on est dans une espèce de bateau, qui va durer un certain temps.
Ouais, du coup, c'était bien pour Fred Grivois. Il était habitué à ce climat et ce tournage un peu dans des conditions extrêmes, quoi.
Oui. Mais c'était difficile parce qu'il y a eu vraiment des journées où on était tourné en haute montagne où les techniciens tombaient dans les pommes, tellement il faisait froid.
Et puis j'ai vu qu'il y avait des couches de neige. Quand vous avez une course pour arrêter quelqu'un, on va pas en dévoiler plus, mais vous avez une petite course tous les deux pour arrêter quelqu'un. Il y a quelques centimètres de neige quand même.
Hein. Et oui, absolument, tout à fait.
Bon, ouais. Les projets, Thibaut. On va évoquer évidemment vos projets pour 2023. Alors cette suite de 10%, on en est où? Est-ce que ça avance un petit peu?
Alors, il semblerait que Fanny Herrero, donc qui était la showrunner de la série, se soit remis à l'écriture d'un film. Donc, on attend. Pour l'instant, on en est là. On ne sait pas exactement quand et quand sera finie l'écriture et quand le tournage pourra commencer. Donc, il y a ça. Là, je viens de finir une très grosse série pour Apple, qui est une série sur Benjamin Franklin, donc une série d'époque qui se passe au 18e, dans lequel je tiens un rôle assez important et qui est avec Michael Douglas, avec beaucoup d'acteurs anglais, américains, qui est un gros, gros truc, qui a duré 7 mois de tournage et qui est une mini-série qui devrait sortir d'ici un an, je pense.
Ouais.
Je commence une pièce à partir du 10 février au Théâtre Libre à Paris sur l'adaptation d'un bouquin des journalistes du Monde, Davé et l'Homme, qui avait écrit Un président ne devrait pas dire ça, qui était le bouquin qui avait coûté un peu sa réélection à Hollande. Il y a une adaptation au théâtre de fête et on le joue du 10 février au 20 avril. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Il y a des projets après de tournage qui sont en train de se monter et dont je ne peux pas parler pour l'instant parce qu'ils ne sont pas finalisés, mais enfin, il va y avoir pas mal de choses. Oui.
Eh ben, ça va être l'occasion de se recroiser très prochainement, du coup.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir été avec nous. On vous retrouve ce soir dans Piste Noire à 21h10, juste après un si grand soleil sur France 2, pour découvrir ces deux premiers épisodes passionnants qui vous attendent. Merci et à très bientôt.
Merci, Alain. Au revoir.
Et tout de suite, la bande-annonce.
Bonsoir, Monsieur Jourdan.
À Fauvel. Allez vous servir un verre, moi.
Cléry 3000.
Oui. Zachary.
Ma l'identité du type, c'est Corto Fioraventi.
C'est un gars du coin. Les tics ont trouvé quelque chose d'intéressant.
100 000, 150 000 euros.
Il bossait dans un bar, le tremplin.
Il dit les quoi, Corto? Les mecs, ils passent des kilos d'herbe sous vos yeux depuis 3 ans et vous avez jamais rien fait.
Il a été passé à tabac par un ou plusieurs individus.
Ça pourrait être un avertissement. Baptiste? Si tu sais que je suis là, tu sais aussi pourquoi.
Je savais pas que Baptiste Montfort était votre frère.
Il y a le portable de Corto qui borne près du col de la Combe. C'est là. Corto?
Mais t'es pas mort, toi?
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à l'affaire Annette Zellman, qui est avec Philippe Le Guay, qu'on a retrouvé. Rappelez-vous, c'était l'homme de la cave il y a quelques mois avec nous. Et bien, il est de retour avec à la réalisation, évidemment, ce très beau film tiré d'une histoire vraie qui va être diffusé sur France 2. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est une adaptation d'une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, de l'adapter pour l'écran?
Alors, l'histoire en question, c'est l'histoire d'Annette Zellman, qui est une jeune fille de 20 ans. En mai 1942, elle est amoureuse d'un jeune homme, je dirais d'une bonne famille, entre guillemets. Et ce jeune homme de bonne famille a des parents qui voient d'un assez mauvais œil la présence de cette jeune fille juive dans l'entourage de leur fils. Et comme le fils s'obstine et demande en mariage à Annette Zellman, les parents trouvent rien de mieux que de dénoncer la jeune fille à la Gestapo, en conséquence de quoi elle est arrêtée. Et se rendant compte de l'énormité de ce geste, le père, qui est joué dans le film par Laurent Lucas, la mère c'est Julie Gayet, vont essayer de la faire sortir. Mais on est exactement à un moment charnière dans l'histoire et ils vont avoir toutes sortes de mal, toutes sortes de difficultés à faire sortir Annette Zellman.
Il faut dire que c'est la guerre qui vient bouleverser cette histoire d'amour qui pourrait être transposée à n'importe quelle époque, mais évidemment, c'est la guerre qui vient bouleverser toute cette histoire.
Voilà, en fait, c'est moins la guerre que l'occupation et la politique systématique d'ostracisation des Juifs. En fait, ça commence par l'ostracisation. Et puis, peu à peu, en fait, ça va basculer vers l'extermination. Mais au moment où l'histoire commence, on est en avril 1942. Il n'y a pas encore eu les grandes rafles, notamment la rafle du Veldiv qui va avoir lieu en juillet. Et donc, c'est un moment où, relativement, on ne se rend pas compte, en fait, du danger que courent les Juifs. On sait qu'ils sont mal en point, on sait qu'on se méfie d'eux, ils perdent leur boulot dans les universités, les professeurs sont obligés d'arrêter d'exercer. Enfin bref, il y a toutes sortes de mesures qui les empêchent de vivre comme des bons citoyens. Mais à l'époque, disons, on ne se rend pas compte encore de l'épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête.
Ouais, c'est ça qui est terrible, c'est un défi pour un réalisateur de plonger une histoire en costume, en époque, que tout soit fidèle justement à l'écran, il faut que rien qui dépasse. Pour vraiment qu'on soit en 1942, il ne s'agit pas qu'il y ait la moindre chose qui pourrait rappeler notre époque actuelle puisse déborder de l'écran, quoi.
C'est vrai qu'il y a une contrainte, il y a la contrainte des costumes, la contrainte des décors et de tout un phrasé aussi, parce qu'on ne parle pas en 42 comme on parle aujourd'hui.
C'est sûr.
Mais à vrai dire, tout ça, évidemment, compte énormément, mais ce qui compte, c'est surtout, les sentiments de l'histoire. Et ce qu'il y a de très beau, au fond, dans cette aventure d'Annette Zellman, c'est la force de l'amour de jeunes gens. Jean Josion, il a 25 ans, Annette Zellman, elle a 20 ans. Elle est juive, lui ne l'est pas. Il est d'une famille ultra-conservateur et finalement antisémite. Mais leur amour va réussir à transcender l'ostracisme, la violence, l'incompréhension. Et c'est cette force de leur destin amoureux qui transparaît dans le film.
Ouais, c'est vraiment l'histoire d'un destin. Qu'est-ce qui vous a plu en Vassili et en Ilona, justement, qui interprète Annette et Jean? Ça a été une évidence?
Ça a été une évidence totale de confier les rôles d'Annette Zellman à Ilona Bachelier, et de Jean Jozion à Vassili Schneider. Tous les deux, ils ont un charisme, ils ont une forme d'innocence. En même temps, ils sont complètement contemporains, mais ils ont aussi un pied dans un romantisme d'un autre âge. Ils ont une candeur, quelque chose de, qui n'a pas été blessé. Et pour raconter cette histoire d'un couple qui va être broyé par le destin, je dirais, par l'histoire avec un grand H, il fallait cette sorte de pureté, d'innocence. Et c'est ça qu'ils incarnent, en même temps quelque chose de très flamboyant.
Alors vous qui oscillez entre la télé et le cinéma, pour le coup, quels sont vos projets pour les mois à venir ? Est-ce que vous préparez déjà votre prochain film, peut-être pour le cinéma ?
Oui, là j'ai créé une histoire qui se passe autour de l'amour des livres. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais au fond, tous dans nos vies, on est attaché à certains livres, à certains livres-objets, des livres qu'on a trouvés dans notre enfance, des livres qui nous ont accompagnés toute une vie. Et je voudrais écrire une histoire autour de ce thème.
Bon, ça sera l'occasion de revenir en parler. On va continuer à parler d'Annette Zellman justement dans un instant. On va écouter la bande-annonce. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir démarré un peu cette spéciale avec nous. Et puis on se dit à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Tu veux bien être ma femme ?
J'ai pas entendu.
Je t'aime, Annette. Est-ce que tu veux m'épouser ?
Oui !
Voilà la bande-annonce. On revient pour continuer à parler de l'affaire Annette Zellman avec Ilona Bachelier et Vassili Schneider qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors tu es l'héroïne, Ilona. Dans ce film, tu joues le rôle d'Annette. Qu'est-ce qui t'a séduit en premier dans cette histoire dingue, inspirée d'une histoire vraie, comme on le disait avec Philippe Leguay il y a quelques instants?
Je dirais ce qui m'a séduit en premier, c'est l'époque et la force du personnage d'Annette et de sa famille. Ça... force de conviction à vouloir suivre ce qu'elle veut malgré un contexte hyper difficile et très pesant. Donc sa joie de vivre et sa, ouais, je dirais sa force personnelle.
C'est ce qu'on disait, c'est vraiment une histoire d'amour que l'occupation est venue bouleverser aujourd'hui. Comment tu définirais justement cette histoire entre Annette et Jean ?
C'est une relation amoureuse, oui, passionnelle, mais qui, si l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça, aurait continué, je pense, dans le temps, enfin j'en sais rien. Mais ils s'aiment pleinement, pour très forte, parce que malgré tous les événements dont ils sont conscients, ils veulent faire éclater leur amour au grand jour, et ils se battent pour ces choses-là alors qu'ils ont que 20 et 25 ans. Donc c'est super jeune.
Comment tu t'es préparée pour le rôle ? Tu t'es documentée ? Tu t'es renseignée ? T'as lu des livres peut-être ? Comment t'as fait ?
Alors j'ai pas lu le livre de Laurent Joly, mais j'ai travaillé avec Vassili et Philippe. On s'est rencontrés, on a fait des lectures. Après, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Michèle Zellman, qui est du coup la sœur d'Annette, sa petite sœur qui est encore vivante aujourd'hui. Donc une rencontre très forte, et elle avait une énorme générosité puisqu'elle a partagé avec nous volontiers ses souvenirs, et elle nous a parlé de sa famille et d'Annette. Donc ça, c'était assez fort. Elle a dit que j'avais le sourire de sa sœur, donc c'était très, très touchant. Et après, sinon, j'ai essayé de regarder des photos, j'ai écouté de la musique, et je me suis concentrée sur ce qu'une jeune femme de 20 ans ressentirait dans ces moments-là. De quoi ça parlait vraiment, malgré le contexte autre ? Qu'est-ce que c'est que de se battre pour son amour, de vouloir croire à l'insouciance ? Enfin, j'essaie de me reconcentrer sur elle, ce qu'elle ressentait plus. Voilà, j'ai pas. Et après, j'ai regardé une jeune fille qui va bien. Je l'ai regardée après.
C'est un défi de tourner, d'être en 1942. C'est une immersion totale. Tu tournes en costume et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette pour un comédien, justement, un véritable défi.
Ah oui, c'est génial. Alors, c'est 2 heures de coiffure et maquillage tous les jours, donc ça fait se lever tôt. C'est génial de pouvoir changer complètement de tête, parce que moi, j'ai les cheveux très bouclés. Moi, je me suis coupée, mais j'avais pas la même tête en Annette qu'en Ilona. Donc, il y a déjà cette transformation qui se passe, qui est super, super chouette. Et de voir tout le monde habillé aussi de manière classe, c'est vrai que je me suis dit que ça faisait plaisir de voir des gens bien habillés. Enfin, je dis pas qu'on est mal habillés, mais un peu plus classe, quoi.
Comment vous avez vécu ce tournage, tous les deux ? Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a le plus marqué, toi, Ilona ?
Oui, la deuxième semaine, vraiment, quand j'ai pris conscience que on a tourné l'arrestation d'Annette et les Tourelles à 2 jours près et 80 ans, parce qu'elle s'est fait arrêter, je crois, le 22 mai, je crois, faudrait vérifier.
Et on a pris conscience de la charge de l'histoire.
Exactement, et là je me suis dit, ouais, c'est ça, tu prends conscience de la charge, c'était assez fort comme moment.
Merci. Merci Ilona, je sais que ça s'enchaîne très très vite. On va continuer avec Vassili aussi et on va te laisser rejoindre un confrère. Merci beaucoup à toi.
Super, merci beaucoup.
Alors Vassili, comment t'as vécu justement toi aussi ce tournage, cette immersion?
Bah, j'ai super bien vécu, c'était un moment très à la fois joyeux sur le tournage et en même temps pesant parce qu'on racontait une histoire qui est très forte, très dramatique et en même temps on incarne une vraie histoire qui s'est réellement déroulée.
Très contemporaine à la fois aussi, mine de rien, pour être aussi très bien transposée si elle n'était pas pendant la guerre, peut-être de nos jours ou du moins plus proche de notre époque. Hein.
Oui, c'est une histoire. Alors c'est un film d'époque. C'est vrai que ça peut faire écho aujourd'hui, par exemple à l'Ukraine. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, on n'est pas sous occupation, donc on peut pas vraiment transposer ça aujourd'hui. Mais l'antisémitisme ou le racisme ou l'homophobie existe toujours. Donc effectivement, il y a un certain écho à l'histoire aujourd'hui. Et après, oui, le tournage, comment je l'ai vécu, il y avait extrêmement de joie et de pression d'interpréter des personnages qui ont réellement existé. On avait l'impression d'être entouré de fantômes presque, on était observé parce que Michel Zellman existe encore. Donc il y avait aussi cette pression-là vis-à-vis d'elle.
Comment tu le définirais, Jean ?
C'est un jeune homme plein de bonheur, qui est très insouciant. C'est un jeune homme qui n'a pas envie de se laisser abattre, qui est prêt à faire énormément de concessions pour vivre. C'est-à-dire que ses parents lui essaient de lui empêcher d'aimer Annette. Et comme ses parents essaient de lui empêcher d'aimer Annette, il va décider de rompre avec ses parents.
Il lâche rien, oui.
Il lâche rien. Il préfère rompre avec ses parents plutôt que d'annuler son amour. Il est conscient du danger et pourtant il refuse rien. Donc ça, c'est quand même, oui, c'est un personnage qui est très fort et à la fois extrêmement poétique. Un personnage très fort.
Vassili, comment tu t'es préparé toi au rôle ? Tu as lu le livre pour le coup avant ou des fois on prend la décision quand on incarne un personnage de ne pas lire le livre dont tu es adapté justement pour se l'approprier peut-être aussi ? Comment tu fais toi ?
Alors j'ai pas lu le livre parce que je pense qu'il y avait autant d'informations dans le scénario que dans le livre. Surtout que en fait c'était pas un livre, c'était vraiment un chapitre sur un livre plus grand qui s'appelle « Dénoncer les Juifs sous l'occupation ». Donc le chapitre, c'est un court chapitre. Le scénario, il donnait autant finalement d'informations. Comment je me suis préparé au rôle ? Alors déjà, il y avait cette chose, le langage de l'époque, qui était un peu compliqué à s'approprier au début. Aujourd'hui, on parle pas comme comme on parlait avant. Et donc, j'ai regardé beaucoup de films d'époque. Je me suis mis à lire beaucoup de livres de cette époque, des livres audio également, pour avoir cette espèce de phrasé sans être dans la caricature du phrasé de l'époque, parce que j'avais
le plus juste possible.
Voilà, j'avais pas envie de parler avec une voix nasillarde comme ça, nanana, mais j'avais envie, en tout cas, de pouvoir sortir naturellement des mots que je ne dirais jamais moi, personnellement. Donc c'était assez compliqué de s'approprier le texte. Après sur le personnage, j'ai dû essayer de comprendre comment on peut rompre avec ses parents, comment on peut renier ses parents. C'est-à-dire que le personnage, à un moment, il dit à son père et à sa mère, je ne suis plus votre fils, oubliez-moi. Essayer de comprendre ça, ça a été très compliqué. J'ai dû m'imaginer un tas de choses.
C'est violent, oui.
Pour essayer de comprendre, parce que j'ai pas vécu la guerre et donc j'ai pas vécu cette histoire. Donc essayer de me dire comment moi aujourd'hui je pourrais en arriver à dire à mon père, je ne suis plus ton fils. Ça a été énormément de travail psychologique.
J'imagine. Alors même question pour le coup qu'à Ilona, pour terminer, quelle a été la scène pour toi la plus marquante, un souvenir à nous raconter peut-être du tournage ?
Un des bons souvenirs que j'ai du tournage, c'est sur une scène où j'entre dans l'hôpital où travaille mon père. J'entre dans l'hôpital et je me confronte à mon père et c'est une scène très forte émotionnellement. Et mon père, mon vrai père à moi, m'avait un petit peu coaché pour cette scène parce qu'il a fait du théâtre aussi et il m'a un petit peu aidé. Il était venu me voir sur le tournage. Une fois que j'avais terminé la scène, il était venu me voir pour me dire que c'était vachement bien et ça m'avait vachement touché. J'étais un peu ému de le voir là et même de le voir lui ému par la scène, ça m'avait ça a été un moment assez fort du tournage.
Surtout quand on est issu d'une famille artistique très riche, hein, que ça soit toi ou Ilona pour le coup. Voilà, l'affaire Annette Zellman en tout cas, eh bien c'est cette semaine sur France 2. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, je vous conseille. Vous allez découvrir peut-être une face méconnue de la petite histoire dans la grande. Merci Vassili d'avoir été avec nous. Et puis on a justement Ilona qui vient nous refaire un petit coucou pour nous dire au revoir juste avant de partir. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, en ce début 2023, c'est un de nos premiers coups de cœur de l'année, pour le coup 2023, Divertimento, un film magnifique, signé Marie Castille, mention char, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Ça doit être la troisième ou quatrième fois, mais à chacun de tes films, on passe toujours un très bon moment. Merci d'être avec nous, Marie Castille.
Bah, merci beaucoup.
Alors, en plus, t'es pas venue toute seule, puisqu'on va nous rejoindre dans un tout petit instant, une révélation dans ce film, enfin même deux révélations, on va dire, puisqu'on va recevoir Oulaya Amamra et Lina El Arabi. Ce film raconte l'histoire et le destin incroyable de ces chefs d'orchestre féminines, elles sont très peu en France, 4%, et de Zaya Ziwani, en particularité, qui est devenue chef d'orchestre, et de sa sœur Fetouma, qui, elle, est violoncelliste. Elles sont incroyables, toutes les deux, ces femmes-là. On a pu les voir au festival d'Angoulême, une des deux, du moins, menées à baguette lors d'un ciné-concert, et voir leur destin et leur histoire, comme ça, défiler devant nos yeux, crée vraiment quelque chose de particulier. Alors toi, à quel moment tu as su que tu voulais en faire un film, en tout cas?
Bah, en fait, c'est la première fois, puisque c'est mon septième film, c'est la première fois que un producteur vient me chercher, puisque normalement je produis mes films. Et là, c'est Marc-Benoît Créancier, déjà, Easy Tiger, qui me connaissait, qui m'a appelé en me disant, écoute, on a ce sujet, j'ai pensé à toi, parce que je pense que par rapport à ta filmographie, à qui tu es, je pense que c'est un sujet qui pourrait t'intéresser, voilà. Donc, est-ce que je peux t'envoyer le scénario qui avait été écrit? Quand j'ai lu le scénario qui avait été écrit à l'époque, donc par Clara Bourreau, j'ai découvert Zaya et Fetouma Ziwani, j'ai découvert Divertimento, j'ai découvert voilà quelques aspects de leur vie que je ne connaissais pas, et j'ai dit à Marc, écoute, oui, je trouve que elles ont de ce que j'en vois, parce que bien sûr tout de suite j'ai fait des recherches sur internet, je me suis documentée, etc. J'ai dit, écoute, oui, j'ai l'impression qu'elles ont un parcours quand même très intéressant. Donc oui, ça m'intéresse, mais je veux faire comme je fais d'habitude pour mes scénarios, c'est-à-dire que je veux passer du temps avec elles et puis réécrire par rapport à tout ce que voilà je vais découvrir d'elles, de leur univers, etc. Et donc elles ont accepté que je les bombarde de questions pendant plusieurs semaines et que je passe beaucoup de temps avec elles, avec leurs parents, et que en fait je refaçonne un scénario et une histoire et un film basé sur tout ce que je découvrais d'elles. Et ce que j'avais envie de mettre dans le film que j'imaginais.
On découvre à travers ton film vraiment le destin de deux jeunes femmes qui se sont battues pour en arriver où elles en sont aujourd'hui, qui ont dû se battre peut-être plus parce qu'elles étaient des femmes justement dans un métier d'homme, puisque voilà, on le disait juste avant, mais seulement 4% en France des chefs d'orchestre sont des femmes. Donc c'est quelque chose qui est encore dur à notre époque à imaginer, mais c'est vrai qu'elles ont dû se battre durement pour en arriver là, quoi, finalement. Et t'as dû découvrir des choses, toi, au fur et à mesure qu'elles t'ont témoigné leur histoire, qui t'ont fait halluciner.
Bah alors, c'est vrai que le film se passe en 95. Et que à l'époque, donc issue de la diversité, de la banlieue, être une femme, etc. Voilà, ça cochait
accumulé
tous les ça va pas le faire. Et c'est vrai que quand j'ai découvert qu'aujourd'hui on est un pays où il n'y a que effectivement 4% de chefs d'orchestre qui sont des femmes, c'est vrai que je me suis dit mince, parce qu'on n'a pas beaucoup évolué quand même, hein, et que j'espère que ce film pourra peut-être leur histoire et leur envie, leur passion, leur résiliation, eh bien ça pourra peut-être encourager certaines jeunes femmes à devenir chef d'orchestre aussi. Elles ont eu quand même beaucoup d'obstacles, et malgré cela elles avaient aussi la force de l'éducation que leurs parents leur ont donné, cet amour, cette passion pour la culture qu'ils avaient, toutes les cultures.
Ils les ont toujours suivis, c'est ce qu'on voit dans le film. En tout cas, leurs parents ont toujours été derrière elles.
Totalement. Dans leur rigueur aussi, mais aussi dans leur partage de culture dont ils étaient complètement... ils étaient passionnés par ça. On n'allait pas pique-niquer juste dans un parc. On allait pique-niquer à côté du château de Versailles pour voir le château de Versailles. Tout était lié à apprendre quelque chose de la culture, apprendre quelque chose, et ça, je trouve ça magnifique, quoi.
Alors après, c'est qu'il a fallu trouver Fetouma et Zaya. Hein, il a fallu trouver deux comédiennes pour les incarner. Le challenge était fort à tenir pour incarner deux jeunes femmes qui ont existé et qui ont dû certainement aussi raconter leur parcours à ces deux jeunes comédiennes qu'on va recevoir dans un instant. Comment tu les as choisies, justement?
Je vais être décevante, mais ça n'était pas un challenge. C'était pas le challenge du film. Je te dirai le challenge après. Parce que pour moi, Oulaya et Lina, c'était vraiment deux comédiennes que j'avais dans mon périmètre, ouais. Des actrices avec qui, si un jour un projet, je pouvais travailler avec elles, elles étaient là, quoi. Elles étaient déjà dans mon univers. Et c'est vrai que, donc, il y avait une évidence. Voilà, donc ça a été très rapide. Après, c'est vrai que la condition, c'était pour elle, vu Marie-Heure et vu bien sûr le sujet, c'est qu'il fallait qu'elle soit totalement crédible. Et ça, c'est du travail, voilà. Mais j'ai vite compris que ces deux comédiennes
ne lâcheraient rien,
comme les deux sœurs. Et on a eu bien sûr la chance que Zaya et Fetouma coachent individuellement chacune des deux. Donc Fetouma a coaché pour apprendre le violoncelle pendant plusieurs mois en prépa, sachant que Lina faisait du violon, mais que le violon et le violoncelle, c'est... Mais bon, elle avait quand même une certaine pratique
base.
De musique, une base. Par contre, Oulaya n'écoutait même pas énormément de musique classique, elle a jamais fait, comme parfois on peut faire à l'école, etc., du solfège, elle avait jamais rien fait. Donc voilà, elle commençait, c'était page blanche, et Zaya l'a coachée pendant aussi plusieurs mois, et elles étaient là aussi sur le tournage pendant toutes les scènes musicales pour que justement, tout soit crédible.
Incroyable ce qu'elles ont fait, que ça soit Oulaya ou Lina, franchement, elles ont une crédibilité de dingue. Je crois que même Fetouma, je me souviens, il y a quelques mois au Festival d'Angoulême, quand on a vu le film pour la première fois, était vraiment, je me rappelle qu'elle a dit sur scène ces mots forts, on n'aurait pas pu être mieux incarné. Et ça, franchement, ça a dû être leur plus beau cadeau, je pense, aux comédiennes qui ont reçu une standing ovation à la fin de cette projection. Je m'en souviens encore. Et c'était vraiment très, très fort, en tout cas.
Oui, oui, c'était très, très fort. Et il y avait aussi plusieurs des musiciens, comédiens du film qui étaient là. Certains, c'était leur premier film. Hein. C'était des musiciens. Quand je parlais du challenge tout à l'heure, c'était ça le vrai challenge pour moi. C'est un casting qui a été... j'ai jamais fait un casting comme ça. Il y avait tellement de participants dans le film et je voulais tous qu'ils soient musiciens, mais des musiciens qui puissent jouer. Donc, il y en a beaucoup. C'était leur premier film, la première fois qu'ils interprétaient un rôle. Donc, c'est ça. Voilà, le casting a été très, très, très long. Mais je suis tellement contente à la fin de ce groupe que j'ai constitué pour le film.
On va recevoir Oulaya et Lina justement dans un tout petit instant. On va écouter la bande-annonce Divertimento. Ça sort au cinéma. On est très heureux en tout cas de t'avoir accueilli une nouvelle fois, Marie Castille. Et puis on se retrouve au prochain film du coup maintenant.
Ben avec grand plaisir.
À très vite.
À très vite.
Quel est votre instrument?
L'alto, maître. Mais je veux être chef.
Être chef, c'est pas un métier de femme.
Fetouma et Zaya Ziwani.
C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours?
Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis.
La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1.
Et donc tu te mets sur ton 31, mais t'as même pas de baguette, c'est ça?
Là, vous pressez un petit peu trop.
T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule?
T'as tout ton orchestre, tu fais un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante.
L'orchestre symphonique? Attends, Zaya, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet?
C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans.
On est en train de créer un orchestre. Il y en a que ça tente.
Tu l'as jamais, toi.
Voici des musiciens du conservatoire de Stein.
Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça.
Eh oui, en bon lieu, on n'a pas de poignons, mais on a de l'imagination.
Oh non, ils vont pas te piquer ta flûte.
Je rêve ou quoi? Ils sont jamais sortis de Paris.
On n'a pas de place.
Et nous voilà de retour pour notre spécial Divertimento. On va accueillir maintenant donc nos deux jeunes comédiennes qui sont avec nous, avec Oulaya Amamra, que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans Citoyen d'honneur à l'automne dernier. Bonjour Oulaya.
Bonjour.
Qui joue Zaya Ziwani, qui est avec nous. Lina El Arabi, qu'on a la chance d'avoir pour la deuxième fois. On avait fait un sublime film ensemble à Luchon, qui avait fait l'ouverture d'ailleurs, qui s'appelait Ne m'abandonne pas. On est très heureux de t'accueillir à nouveau en tout cas, Lina El Arabi.
Eh bien, merci de nous donner de votre temps. Merci beaucoup.
Eh ben, en tout cas, moi, je suis très heureux de vous avoir parce que ce film, il est magnifique. Vous incarnez avec brio deux femmes, deux destins de femmes assez incroyables. Alors moi, la première chose que j'ai envie de vous demander, comment vous êtes préparé à ce rôle et comment s'est passée votre première rencontre pour toi, Olaya, bah, avec Zaya, évidemment.
Alors moi, j'avais lu le scénario, donc dans un premier temps, donc j'ai découvert sa vie, je la connaissais pas. Et quand je me suis documenté, que j'ai vu tout ce qu'elle avait accompli avec cet orchestre et bah, j'étais évidemment très impressionnée. Et après, en fait, on se rend compte que c'est des femmes, en tout cas, enfin oui, les deux, elles sont très, très simples, très humbles, voilà. Et surtout, elles aiment, je crois que ça se voit assez dans le film, transmettre. Donc elles ont adoré, enfin, c'est avec grand plaisir qu'elles nous ont transmis pour Fethouma le violoncelle et pour Zaya la direction d'orchestre. Parce qu'il faut savoir que c'est des filles qui donnent beaucoup de cours. Qui sont, comme on le voit dans le film, elles apprennent à, aussi bien dans des conservatoires que dans des centres sociaux. Donc elles savent, elles sont très pédagogues. Donc voilà, c'était un plaisir.
Et surtout qu'elles en ont bavé pour en arriver où elles en sont aujourd'hui. On le disait à l'instant avec Marie Castille, mais 4% seulement des chefs d'orchestre sont des femmes. Et le combat a été dur et long pour en arriver là. Et aujourd'hui, je crois qu'elles ont la joie justement et qu'elles ont vraiment envie de transmettre justement à tout plein de jeunes cette passion de la musique qui les a emportées quand elles étaient plus jeunes en tout cas. Lina, pour toi, ta rencontre, ta première rencontre avec Fethouma et justement comment tu t'es préparée à ce rôle?
Bah, c'est vrai que sur ce film, on a eu la chance d'avoir une vraie prépa. Donc, comme disait Oulaya, donc on a pu travailler avec elle. Et bah, du coup, pendant 2 mois, j'ai travaillé le violoncelle avec Fethouma.
J'ai déjà du violon, toi, hein?
Ouais, moi, j'ai fait plusieurs années de violon. Après, c'est pas du tout au niveau de ces grands musiciens-là, hein. Moi, j'en faisais plus pour mon plaisir. J'avais commencé jeune et j'avais continué après pour mon propre plaisir. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de solfège. Enfin, j'avais une vraie notion de la musique. Et puis, le violon et le violoncelle font partie de la même famille d'instruments, mais c'est pas du tout le même instrument. Donc, du coup, j'ai dû beaucoup travailler. Mais évidemment, j'ai avancé beaucoup plus vite que si j'avais jamais fait de musique de ma vie. C'est vrai que c'est une chance de fou, en fait, d'être coachée par les personnes qu'on va interpréter. Ce temps qu'on a passé ensemble, il était précieux. Et comme on est deux bosseuses avec Oulaya, on ne croit qu'au travail. Le talent, j'espère qu'il est là pour Oulaya, il est là, c'est sûr. Mais le talent sans le travail, ça sert à rien. Donc comme on est deux bosseuses, on a beaucoup travaillé avec les deux jumelles. Et elles sont contentes du résultat, donc nous sommes contentes qu'elles soient contentes.
On en parlait il y a un instant justement avec Marie Castille aussi. Première projection, je me souviens, c'était à Angoulême il y a quelques mois, festival du film francophone. Et là, je vois Fethouma monter sur scène et qui dit « On n'aurait jamais rêvé mieux pour être incarné que ces deux comédiennes ». Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, toutes les deux?
Je crois qu'on a toutes les deux été touchées par cette phrase que nous, on n'aurait jamais pu rêver mieux que ces deux personnages à incarner. Je veux dire, elles sont... C'est honnêtement, on a eu beaucoup de chance de les croiser, même en tant qu'être humain, au-delà de professionnels de musique. C'est des femmes incroyables, je veux dire, elles ont accompli ça. Et je crois que si on fait un film sur elles, c'est que vraiment, je crois qu'il faut que le monde entier connaisse ces femmes-là et leur parcours.
Exceptionnel.
Exceptionnel, exactement.
Ina, qu'est-ce que t'as ressenti, toi, au moment où elle a dit ça, Fethouma?
C'est vrai qu'elles nous ont fait confiance, en fait. Et je crois qu'on s'est tous fait confiance et... Il y avait beaucoup d'admiration pour elle, on les admirait beaucoup avec Oulaya. Nous, le but, c'était de les rendre fiers. C'est une chose de faire un biopic sur des personnes qui ne sont plus là. C'en est une autre de faire un biopic avec des personnes qui ont suivi le projet, qui vous ont coaché, qui étaient là sur le plateau. En fait, on a juste envie, quand c'est cette admiration, on a juste envie justement... De ne pas les décevoir, exactement. Et qu'elles disent ça, c'est... C'est le meilleur des remboursements, le vieux mot nul qui est sorti de ma bouche. Non, c'est le meilleur des retours, quoi.
Nils Arestrup a une partition incroyable. Il joue le rôle d'un grand chef d'orchestre qui te coach, en fait, qui coach Zaya. Vous avez des scènes, tous les deux, qui est aussi entre vraiment l'exigence et la tendresse aussi, entre ces deux personnages, qui est assez dingue.
Effectivement, moi, ça m'a fait penser à cette relation à comme un sportif de haut niveau avec son coach et son entraîneur, quoi. C'est, en même temps, il est obligé d'être dur et lui dire les choses, mais parce qu'il a envie qu'elle soit la meilleure, un peu comme Burgos avec Fethouma. C'est des, c'est des professeurs qui sont exigeants, mais en même temps, c'est pour ça qu'on fait un film sur ces filles, c'est parce que ça les a menées à l'excellence. Aujourd'hui, elles jouent avec leur orchestre partout, quoi, dans les plus grands opéras du monde. C'est grâce à leur acharnement et grâce à ces professeurs, à Sergiu Celibidache et à Burgos, qu'elles ont rencontré, qui étaient à la fois durs et à la fois bienveillants, parce que je crois qu'il lui dit beaucoup de choses, notamment cette phrase qui reste, en tout cas moi qui m'est restée, qui est « La musique, c'est la vie, mais la vie, c'est aussi... La vie, c'est la musique, mais la musique, c'est aussi la vie. » Et je crois qu'il faut beaucoup vivre. Et je crois que Nils Arestrup aussi, en tant qu'acteur, il me disait ça pour l'actrice que je suis. Il m'a dit « Essaye de vivre au présent. » Et essaye d'être le plus connecté au présent, parce que la vie passe. Et c'est bien, le cinéma, c'est génial, mais la vie, c'est génial aussi.
C'est vrai. Quelle est la scène qui vous a le plus marqué, toutes les deux?
Alors, moi, la scène que j'arrête pas de d'écouter, qui me revient sans cesse, c'est Oulaya, qui donc joue Zaya. Et dans cette scène, il y a Zaya qui parle au directeur du conservatoire. Et tout le texte qu'a Oulaya à ce moment-là, c'est magnifique. En fait, dans cette scène-là, elle explique tout le film. Elle explique pourquoi elles font ça. Elle parle du fait que la musique classique, c'est élitiste, mais que c'est pas élitiste comme on croit. C'est élitiste parce qu'il y a une grande exigence et que il faut donner le meilleur de soi. Mais que cet élitisme, il est chez chacun de nous, en fait. Et en fait, même, c'est beaucoup dû aussi à l'interprétation d'Oulaya qui, franchement, non mais c'est vrai, cette scène, moi, je la trouve profonde, bouleversante.
Une sacrée tirade, hein. Je sais pas comment elle fait pour tout retenir, parce que là, il y en avait, hein.
C'est une super tirade, c'est hyper dur en plus de jouer ça, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître très écrit et tout, mais en fait, il y a tout dans cette scène. Il y a tout. Il y a tout le combat de Zaya. Et lui, en plus, il est dur avec elle dans cette scène-là, parce qu'il la renvoie à chaque fois dans ses propres, dans ce qu'il pense lui être des contradictions, et elle lui montre à quel point ça n'en est pas. Ouais, on sent à la fin, là, une espèce de fêlure qui n'est pas une fêlure d'échec, mais qui est une fêlure de se dire, mais est-ce que finalement, tout ça, c'est pas trop tôt, en fait. Mais en fait, c'est tout le temps trop tôt, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a encore pas assez de chefs d'orchestre femmes, et en fait, la manière dont Zaya et Fethouma, elles ont fait évoluer les choses, c'est fou. Et cette scène-là, quand vous tous qui écoutez, vous verrez ce film, vous verrez que cette scène, elle est sublime, quoi.
Pour toi, Oulaya?
Moi, je crois que la scène, en tout cas, que j'ai bien aimé jouer, je pense à ce moment où on est toutes les deux dans le lit, et qui est quand même une scène importante, puisque c'est la première fois que, en fait, Fethouma a l'idée de dire à Zaya de créer son propre orchestre, un orchestre qui lui ressemble, qui n'est pas un orchestre... voilà, comme les autres qu'on a pu voir, mais un orchestre qui lui ressemble.
À un moment où Zaya est en plein doute, en plus.
En plein doute, parce qu'elle n'a pas été choisie, justement, parce que voilà, il y a eu cette scène avant. Et du coup, c'est le point de départ qui va faire que cette histoire, elle va naître. Et je trouve cette scène assez poétique, parce que, bon voilà, on les voit aussi dans leur intimité un peu rire et un peu lâcher prise, quoi, et ça fait du bien.
C'est clair. En tout cas, vous avez passé un bon moment, moi je vous le dis. Ça s'appelle Divertimento, un film à ne pas rater, c'est le nom aujourd'hui justement du spectacle des sœurs Ziwani. Si vous avez l'occasion de pouvoir aller justement découvrir cette troupe qui s'appelle Divertimento, n'hésitez pas à aller les voir. Merci les filles d'avoir été avec nous, puisqu'on est maintenant début 2023, citoyen d'honneur, dans lequel tu as une très belle partition, le film de Mohamed Hamidi, où Oulaya va s'offrir en DVD et en VOD, ça va être le moment de le voir. Justement, et puis Lina, pour 2023, t'as des projets aussi?
Oui, mais rien dont je sois sûre en termes de sortie pour que je puisse en parler maintenant.
Donc
mais...
ça sera l'occasion de revenir.
Absolument, à bientôt.
Très très bientôt, merci à toutes les deux, et on va se requitter avec un petit extrait, à très vite.
Merci beaucoup, à très vite.
Merci.
Monsieur le maire, cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions.
Vous voulez changer le monde, en fait.
Dirige !
Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre ?
Ouais, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place.
C'est une force incroyable d'être deux, comme ça.
On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs, cet orchestre ? Divertimento.
cette famille.
Vous êtes une arabe?
Ça vaut pas, non, ah ouais, je suis pas arabe. Non, moi je suis marseillaise.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
I heard a million times before I came to you. One after the other side, time's the only cure. When love is forever gone and disappear like stars at dawn in every road that I've been on. It leads me back to you. It leads me back to you. 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 I sold a million lives before I came to you. Guess none of us can read the lie behind the golden truth. Trust can't be counted on, it's as crooked as the end zone.
Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à Vaincre ou mourir. Le film sort mercredi dans les salles. C'est la première production signée du Puy du Fou. Alors évidemment, dans notre région, on connaît bien le Puy du Fou. Et justement, Guillaume Allaire, le producteur, est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être là. Hugo Becker est avec nous également, qui joue le rôle de Charette, puisque c'est Charette qui a l'honneur dans ce premier film du Puy du Fou. Bonjour Hugo, merci d'être là.
Bonjour, merci à vous.
Et Jonathan Demurger qui est également ici. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Guillaume, première chose, on va déjà revenir sur cette première production. Ça met un petit coup de pression de présenter cette production au public là dans deux jours. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là?
Bah écoutez, c'est comme une grande première. Nous, on a l'habitude de ça chaque année en lançant notre parc, ses nouveautés, ses nouveaux spectacles, voire même quand on ouvre d'autres à l'étranger. Mais là, c'est une double grande première parce que c'est la première fois qu'on se lance dans le cinéma sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc évidemment, on a l'impression d'avoir franchi la portière. On ne sait pas encore comment le parachute va s'ouvrir, mais en tout cas, on a mis tout notre cœur, toute notre passion autour de ce projet. Et j'espère qu'il ira toucher le cœur des spectateurs comme il a touché ceux de l'équipe et les nôtres pendant la production.
Charette, c'est une évidence que ça soit le premier évoqué dans, j'imagine, ce qui va être une série de plusieurs films à l'avenir, puisque Puy du Fou Film, c'est pas créé pour un seul film, j'imagine.
Charette, c'était une évidence. Tout bonnement parce que c'est le héros préféré de nos visiteurs au Puy du Fou. C'est le spectacle du dernier panache. 12 millions de spectateurs sur les depuis sa création, pardon. Et c'est à la fois une question de cours, du coup, pour nous, parce qu'on connaît bien le sujet, mais c'est aussi une question de cœur, parce que c'est l'histoire de toute une région, la Vendée. Et c'est donc une figure à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
Hugo, t'as hésité longtemps avant d'accepter ce rôle ou non? J'ai pas l'impression, moi, que t'aies hésité très longtemps.
Et pourtant, j'ai hésité beaucoup. Non, mais c'est vrai en plus.
J'ai hésité pour une raison simple. Non, mais c'est vrai. Guillaume le savait pas. Guillaume le savait pas. Non, non, mais j'ai hésité avant de les rencontrer. Quand on reçoit un projet, on est. Il y a le projet en lui-même, puis il y a les gens qui le font. Et c'est deux choses qui sont tout à fait liées, mais qui n'ont pas forcément lieu en même temps. Quand j'ai reçu le projet, je connaissais pas cette histoire. Le projet était à l'état de prémisse. Et c'est vrai que j'étais à ce moment-là en plus. J'avais la tête. En fait, quand je fais quelque chose, je le fais complètement à fond. Et du coup, j'ai parfois un peu de mal, du mal à me projeter dans autre chose. Et puis, j'ai rencontré Paul Mignot, j'ai rencontré Vincent Mottez, j'ai rencontré le scénariste, j'ai rencontré Nicolas Devilliers, et ensuite j'ai rencontré Guillaume Allaire. Et c'est vrai que j'ai été. Enfin, ça a achevé de me convaincre l'enthousiasme de chacun. La capacité aussi sur ce projet qui était un projet en gestation, et la capacité à se dépasser, à dépasser ce qu'il était à la toute base, comme Guillaume le racontait, c'était un projet à la base qui était un docu-fiction de 2 fois 52 minutes qui devient un film de cinéma, un film un peu hybride, un peu ovni, mais qui justement le rend particulièrement intéressant. Et en fait, en lisant cette histoire, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a secoué. D'abord mon ignorance, parce que j'ignorais complètement le sujet. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, l'importance de raconter une telle histoire qui a eu lieu, et de faire honneur aux victimes. Et je pense à toute une partie de la Vendée et des Vendéens qui avaient envie que leur histoire soit reconnue, tout simplement. Et je pense que le temps qui s'est écoulé depuis fait que certaines plaies se sont peut-être apaisées, mais il y a un besoin en fait qu'on reconnaisse l'histoire et ce qui a eu lieu. Je trouve que c'était quelque chose de bien de participer à un tel projet. Les gens m'ont touché, j'ai envie de dire l'enthousiasme, la bienveillance de l'accueil, mais aussi ce qu'ils avaient envie de raconter, et surtout de la façon dans laquelle ils avaient de le raconter, donc la façon dont ils avaient envie de le raconter, c'est-à-dire sans manichéisme et avec passion. Il y avait aussi derrière tout ça, pour ne rien vous cacher, ce qui a achevé totalement de me convaincre, c'était de voir la volonté du Puy du Fou de faire des films historiques et d'utiliser le patrimoine français et de le remettre à l'honneur. Et je trouve que c'est important. En fait, on a de très belles histoires, et c'est vrai qu'ils ont été extrêmement portés par beaucoup de productions étrangères, américaine ou anglaise, et c'est très bien d'ailleurs, tant mieux qu'ils racontent aussi notre histoire, mais on peut peut-être le faire nous aussi et à notre manière, et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup.
Jonathan, ça met une petite pression justement, et un devoir de mémoire aussi vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de l'histoire quand on tourne justement ce style de film.
Ah oui, bah de toute façon c'est vrai que en fait comme Hugo vient de le dire, c'est une histoire qui est connue, mais ses principaux acteurs sont un peu méconnus du grand public. Donc on retrace une épopée extraordinaire d'un héros, et à travers cette histoire, ça met aussi ça retrace le drame qu'ont pu vivre tout un peuple, en fait, qui est passé dans l'oubli. Et c'est un devoir de mémoire, oui. Ça met une pression supplémentaire aussi, oui, parce qu'on veut être à la hauteur de ces gens. Le film leur est dédié, et c'est important pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on garde en tête de toute façon, parce que c'est un drame qui est arrivé. Alors il faut en parler. Faut pas le laisser dans l'oubli.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est que à la fois ça paraît tellement loin et à la fois tellement proche, 200 ans, 220. Voilà, on est à la fin de la Révolution, après la Révolution française, où commence l'histoire. Guillaume, la prouesse aussi en 18 jours, ça veut dire que le film a été tourné encore plus rapidement qu'un film pour la télévision aujourd'hui qui met 20-21 jours. Comment on fait pour tourner un film à grand spectacle? Comme moi, j'ai pu le voir avant tout le monde, j'ai eu cette chance-là. Mais en 18 jours, avec autant de comédiens, autant de figurants, comment on fait ça?
Il faut embaucher de bons acteurs.
J'allais y venir, tu vois.
Je pense que Jonathan en témoignera comme moi, et de bons cascadeurs. Vrai ou faux, Jonathan?
De toute façon, pour faire ce genre de prouesse technique, il faut être entouré des bonnes personnes à tous les chefs de poste. Les acteurs, mais que ce soit la technique, à l'image, à la lumière, au costume, mais surtout les acteurs. Mais non, c'est vrai que...
Rendons à César ce qui est à César. Évidemment, les comédiens ont été parfaits. Ils se sont impliqués. Ils ont incarné leur rôle, chacun autant qu'ils sont. Bien sûr, il faut rendre aussi hommage au réalisateur, Paul Mignot, avec à ses côtés Vincent Mottez, co-réalisateur, parce qu'ils ont, nous on était là derrière eux en tant que producteurs pour tenir les délais, pour tenir le plan de travail, pour tenir les séquences jour après jour, à côté des du producteur exécutif et du directeur de la production. Et enfin, on a cette force au plus du fou. D'avoir tout à domicile, c'est-à-dire les cascadeurs, les costumiers, les costumes, les décors, l'hébergement. Donc, vous gagnez un temps fou en opération au quotidien, en temps, en logistique. Et là aussi, ça me permet de remercier toutes les équipes du Puy du Fou.
On écoute la bande-annonce « Vaincre ou mourir », ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec vous. On écoute.
La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est.
La guerre !
Non ! La guerre !
Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre.
À mort !
Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour.
Ils ne sont pas du pays, nous aussi.
L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les battre !
On nous a endormis avec de belles promesses, c'est tout.
Mais la paix n'est-elle pas possible ?
Entrez, pour plus !
Crevez votre faux, mais capturez Jacques.
Ce casting est dingue, on le disait, Vaincre ou mourir, c'est mercredi dans les salles. Anne Serra, Rod Parado, Francis Renaud, Damien Jouiro, les frères Fitoussi, Mickaël et Grégory. C'est vraiment hallucinant ce casting.
Gilles Cohen,
Ben oui.
Jean-Hugues Anglade, Olivier Barthélémy, Constance Gay, Scali Delperin. Non mais c'était un casting absolument fabuleux, fabuleux, Dorca Copin. Non mais vraiment fabuleux, une chance inouïe de, enfin pour moi en tout cas, et je pense pour Jonathan aussi vu son vu le visage qu'il est en train de faire là, c'était vraiment fabuleux pour nous de travailler avec ces gens-là et ça a créé un esprit de troupe, un esprit presque de famille et c'était que des gens passionnés, exigeants et surtout tous très très doués. Je pense que c'est un souvenir qui restera gravé en moi d'avoir travaillé avec tout ce monde-là.
Ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que tu aies réfléchi à faire le film, moi justement en fait, c'est beaucoup. Je pense que ça devait être beaucoup plus dur pour toi d'accepter ou de te dire est-ce que je me vois dedans, est-ce que je vais le faire, que pour moi, parce que moi quand on m'a proposé d'être dedans, donc je connaissais Paul, il y avait déjà tout le monde et j'ai même pas lu, j'ai dit bah oui. En fait, mais parce que avec un casting qui avait déjà toi, Greg Fitoussi, Gilles Cohen, Rod Parado, je me suis dit, j'y vais évidemment. C'est que des acteurs pour qui j'ai énormément de respect, d'admiration, et je me suis dit, mais évidemment, en fait, tout de suite, j'ai même pas lu, j'ai dit que j'avais dit oui, en fait.
Ça me fait plaisir.
Mais c'est vrai, en plus, vraiment. Et j'étais très heureux de travailler à tes côtés, mon Hugo.
On va évoquer vos meilleurs souvenirs avant de se quitter. Quel moment vous avez dit waouh ?
Il y en a énormément parce que c'était l'ensemble du tournage était vraiment un moment. Alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'était vraiment un moment de plaisir, de travail. Hein. Faut pas croire qu'on a fait que se marrer, mais on a travaillé dans une atmosphère vraiment positive. Moi, ce que je vais retenir, parce que c'était impressionnant, c'était éprouvant physiquement, mais c'est la bataille de Torfou avec les figurants, les chevaux, les combats. On a passé la journée dans la boue et c'est une journée vraiment marquante. Parce que déjà, mine de rien, de nos jours, de pouvoir tourner avec près de 300 figurants, des chevaux, en mettant des combats, en mettant des explosions, des feux dedans, tout ça en extérieur, c'est des choses qui se font de moins en moins. Et c'est, pour le coup, moi, c'est mon souvenir vraiment qui m'a marqué cette expérience-là, ce moment de tournage. C'était vraiment impressionnant.
À toi, Hugo.
Moi, j'en ai trois. J'en ai pas un, j'en ai trois. Le premier qui m'est venu en tête, pour être tout à fait honnête, c'est un galop sur la plage assez dingue avec Constance Gay, où on s'est vraiment fait plaisir à cheval et c'était un moment hors du temps, un moment suspendu. Le deuxième, Il me semble qu'il s'était avec le réalisateur Paul Mignot. Il me semble qu'il y avait son co-réalisateur Vincent Mottet. Il me semble qu'il y avait Francis Podrenard, alias Francis Renault. Et on était en voiture et on a eu des fous rires. Mais des fous rires, je les vois encore. Je crois que Paul a failli arrêter la voiture tellement on pleurait. Il en a, on pleurait de rire et on sortait connerie sur connerie parce que beaucoup de travail crée beaucoup de fatigue crée nécessité de décompression et voilà, c'était un craquage complet. On faisait des dialogues à n'en plus finir. C'était vraiment un souvenir magnifique et je crois qu'on est resté sur le parking à 10 minutes limite à nous rouler par terre de rire. Et le troisième souvenir, il est avec ce monsieur qui était à ma droite,
Guillaume
Allaire, et une grande partie de l'équipe, et parfois je crois à la fin on était quand même en comité assez restreint, j'ai envie de dire les derniers fidèles. C'est dans un lieu qui est tenu secret qui s'appelle les Chauguettes, et ce lieu là ce que je peux vous dire c'est qu'on n'y boit pas que de l'Oasis et que du brut de pomme.
T'as raison, c'était un moment fort aussi. Moi, je me souviens d'un instant très particulier. Nous, c'était notre premier film, hein, Puy du Fou. Donc, nous, les producteurs, avec Nicolas Devilliers, moi-même et toute l'équipe de Puy du Fou Film, on était présents de la première minute du prêt à tourner jusqu'à la fin de chaque journée pour comprendre, pour découvrir, pour corriger, pour tenir les timings, etc. Et je me souviens d'une soirée, en fait, d'une nuit. Je pense qu'il est à peu près minuit ou une heure du mat. On a une journée sans fin. On est au fin fond d'une forêt, accroché à un éperon rocheux, et on tourne la scène de la dernière veillée. Le testament un peu spirituel de Charette auprès de ses frères d'armes, de ses derniers compagnons d'armes. Et là, je trouve qu'il y a eu un moment de grâce, en fait, pendant le tournage. C'était un moment très fort. Il est
coupé, hein, dans le film.
non, il y est, je l'ai vu.
Non, c'est vraiment un moment fort qui, même quand on l'a tourné, était assez bouleversant et qui ressort comme ça de manière assez puissante dans le film. Ça, c'est vraiment.
C'est vrai que c'était un très bon moment de
tournage. Il pleuvait des cordes, il faisait moins 10 degrés.
On était tous ensemble et il y avait une atmosphère un peu de post-apocalyptique, quoi, de fin du monde et en même temps de poésie. Il y avait une poésie qui se dégageait, ouais.
Il laisse sa trace dans l'histoire.
Ouais. D'horizon.
Vaincre ou mourir, mercredi au cinéma. On finit très rapidement par vos projets. On va te retrouver dans la troisième saison de Je te promets très très prochainement sur TF1, mon cher Hugo. J'imagine que 2023, il va y avoir plein de belles choses avec toi.
Il y a le film Tempête que vous pouvez encore revoir.
Christian Duguay, oui, qui est sorti 21 décembre, qui est incroyable, que je vous conseille vraiment si vous l'avez encore dans quelques salles près de chez vous.
Il y a le film de Romain Quirot qui s'appelle Apache, avec qui j'avais fait Le Dernier Voyage. Et il y a Pour la France de Rachid Ami, voilà, dans lequel je fais une petite participation, mais c'est un film qui me tient à cœur pour son sujet aussi, qui est vraiment un beau sujet. Voilà, avec Karim Leclou qui est superbe dans le film.
Et on les recevra tous les deux d'ailleurs pour la sortie du film Pour la France, Karim et Rachid. Les projets du Puy du Fou, j'imagine qu'un deuxième film est sur les rangs. Alors on peut pas en dire plus, mais il y a plein de projets.
Plusieurs projets sont en développement, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler.
Ça sera l'occasion de revenir du coup.
Ça sera l'occasion de revenir, mais en attendant, vous pouvez revenir au Puy du Fou. Nous avons notre nouveau spectacle qui va ouvrir ses portes début avril prochain en France, mais aussi un nouveau spectacle en Espagne. Notre plus grand spectacle, en fait notre plus long spectacle, la Compagnie de France, le Grand Tour. Le Grand Tour, un grand train spectacle qui va sillonner toute la France à la découverte de ses plus belles merveilles. Départ le fin juin 2023.
Dans lequel ils ont eu la gentillesse pour me remercier de tous les efforts que j'ai pu faire sur ce film, jusqu'à Z, de m'offrir un ticket or, Nicolas. Alors je tiens quand même à le dire à la radio. Normalement, si c'est pas le cas, vous en serez témoin. J'ai un ticket or dans ce train, donc c'est de la Compagnie de France, et je peux le prendre quand je le souhaite avec la personne de mon choix. Il y a un wagon charrette qui m'est dédié. C'est vrai ou pas?
Écoute, rendez-vous sur le quai de la gare.
Jonathan, tes projets pour 2023, est-ce qu'on va te voir dans autre chose?
Oui. Écoute, il va y avoir le film de Catherine Corsini, un film aussi avec Ahmed Silla d'Ali Mariard, qui s'appelle Comme un prince. Puis après, il va y avoir des petites choses qui sont en train de se préparer. Et voilà.
Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous. Merci, Hugo. Merci, Guillaume. Et également, Vaincre ou mourir, c'est mercredi dans les salles. Merci infiniment. À très vite.
L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre! On nous a endormis avec de belles promesses, c'est tout.
Mais la paix n'est-elle pas possible?
Entrez, pour plus!
faux, mais capturez Shaq.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la sortie du film La Montagne avec Thomas Salvador qui sera notre invité. On parlera également de La Vie, l'amour tout de suite avec une grande spéciale Nicolas Cuche, Anne-Marie Vin, Sandy Afioni, également l'héroïne de cette fiction événement qui s'annonce sur M6. Bref, une grande spéciale vous attend lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.